La levée du blocage de l'aérodrome de l'île des Pins hier, le collectif d'usagers de l'île l'a annoncé hier alors que dans un même temps, Aircal déclare entamer préparer un plan de redressement. Les exécutifs municipaux se mettent peu à peu en place sur le territoire. Hier se sont déroulés de nombreux conseils municipaux. 22 maires ont été élus et il restera 3 maires à élire. Ce sera ce week-end. En métropole, face à la flambée des prix à la pompe, l'État annonce des mesures de soutien pour les secteurs les plus touchés, soit les transporteurs, les pêcheurs et les agriculteurs. Comment occuper votre week-end dans cette fin de semaine? On voit tout ça dans ce journal. Et puis du sport, retour sur cette défaite des Cagous contre la Jamaïque lors des barrages intercontinentaux en vue de la Coupe du Monde. On parlera également en tennis avec la fin des Masters 1000 de Miami. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Aircal va entamer une procédure collective auprès du tribunal de commerce pour préparer un plan de redressement. La décision a été prise lors d'un conseil d'administration de la compagnie Michael Juneski.
Déjà en grande difficulté ces dernières années, Air Calédonie a mené une importante démarche de réduction de ses coûts qui a notamment abouti à un plan social de grande ampleur. Mais le blocage des aérodromes, des îles Loyauté et de l'île des Pins qui dure depuis près de 4 semaines est venu brutalement aggraver une situation déjà fragile et met en danger immédiat les finances de la compagnie. C'est la raison pour laquelle les administrateurs ont décidé d'entamer une procédure collective auprès du tribunal de commerce. Cela va permettre dans un premier temps à la compagnie de geler ses dettes et, sous réserve de la réouverture des aérodromes bloqués, de poursuivre son activité en fonction des ressources qui seront allouées par les actionnaires durant la période d'observation. Cette période d'observation va aussi permettre de proposer un plan de redressement. La décision a été annoncée au personnel de la compagnie. Ce dernier, souligne la compagnie dans un communiqué, a déjà été très sollicité ces dernières années pour réduire les coûts et va devoir sans doute faire des efforts supplémentaires avec notamment la poursuite du chômage partiel tant que l'activité n'a pas repris. C'est une situation très difficile qui impacte près de 200 familles, conclut Air Calédonie dans ce communiqué.
À l'île des Pins, le collectif a décidé de débloquer l'aérodrome. Dans un communiqué, il fait état de plusieurs échanges avec le gouvernement ou avec la province sud qui ont permis d'apporter des réponses aux revendications du collectif. Il annonce donc la levée du blocage de l'aérodrome de l'île des Pins tout en disant rester mobilisé et attentif à la mise en œuvre des engagements pris. Dans les airs toujours, le corridor sanitaire se poursuit dans la continuité des opérations menées pour Ouvéa et Lifou. Une rotation a été effectuée hier à Marée. L'avion mis à disposition par Air Calédonie a permis d'acheminer 43 patients dont certains accompagnants, 4 personnels de santé et 2 caisses d'analyse biologique de 40 kilos de Marée vers Tontouta. À leur arrivée, certains patients ont été pris en charge directement par des ambulances et les autres récupérés par leur famille ou transportés par navette. Il y a également des perturbations sur les vols internationaux. Le vol SB501 du 25 mars entre Paris et Nouméa via Bangkok avait été annulé à cause d'une panne technique qui n'est toujours pas résolue. L'avion est toujours cloué au sol à Paris à cause d'une pénurie mondiale de certaines pièces qui équipent les appareils Airbus A330. La direction technique d'Air Calin a toutefois des pièces de rechange à Tontouta. Elles sont acheminées vers Paris. En attendant la réparation, les passagers sont pris en charge. En conséquence, les vols SB600 et SB601 entre Nouméa et Papeete prévus hier sont reprogrammés aujourd'hui avec un départ de Nouméa à 13h30. La mise en place des exécutifs municipaux, ce sont 22 communes qui ont élu hier leur maire et ses adjoints. Les 3 dernières communes le feront ce week-end. C'est en effet le délai pour réunir les conseils municipaux sortis des urnes dimanche dernier, après le deuxième tour des élections municipales. Les 3 communes de l'agglomération ont donc réuni leurs conseils hier. Et à Dumbéa, sans surprise, le nouveau maire est Cynthia Jean, Michael Juneski.
Elle a recueilli 31 voix sur 39, les 8 autres étant des votes blancs. Beaucoup de satisfaction pour celle qui siégeait dans l'opposition depuis 2020 comme élue Génération Dumbéa avant de former l'Union des loyalistes Rassemblement Dumbéa en 2025. Cynthia Jean entend se mettre au travail rapidement.
La séance s'est extrêmement bien passée. Nous avons pu observer des mots très constructifs de la part de l'opposition. J'espère que cela va durer toute la mandature. Nous avons élu les adjoints également. Nous avons choisi de diminuer le nombre d'adjoints par rapport à ce qui est possible, passant ainsi de 11 à 9. Nous avons voulu montrer un signe de maîtrise des dépenses publiques. Et nous sommes maintenant prêt pour travailler. Je suis en réunion de travail dès cet après-midi avec le secrétariat général. Nous commençons à nous mettre au travail immédiatement. C'est pour ça que les Dimbéens nous ont élus.
Au Mont-d'Or, pas de suspense non plus, puisque Nina Julier a fait le plein des 26 voix de sa liste pour être élue.
C'est toujours un moment émouvant après autant d'années dans l'opposition. C'est surtout un moment pour annoncer comment nous allons travailler. Au travers de notre élection, les Mont-d'Oriens ont choisi le changement. Donc on va faire des choses très concrètes, très visibles et très utiles, surtout pendant ces 3 premiers mois, ce qui nous laissera le temps de réfléchir à la feuille de route des 6 ans, qui sera basée sur notre programme, mais également sur la concertation avec les services. Moi, j'ai proposé une méthode basée sur le respect, mais le vrai respect, celui des règles, celui des autres, et sur les sanctions quand les règles ne sont pas respectées. Et les Mont-d'Oriens ont choisi cette méthode. Mais la volonté est la même pour tous les conseillers municipaux, vivre ensemble et en paix.
Nina Julier, nouveau maire du Mont-d'Or, a profité de ce premier conseil municipal de la nouvelle mandature pour rappeler ses 3 priorités, la sécurité, l'attractivité économique et le rayonnement de la commune. 3e commune de l'agglomération dont le maire a été élu, Païta, Antoine Romain, occupe donc désormais le fauteuil de maire et succède à Marilyn D'Arcangelo qui ne se représentait pas.
Cette séance inaugurale du conseil municipal n'a pas réservé de surprise et j'en suis particulièrement satisfait. J'ai eu l'occasion de rappeler un petit peu quels étaient les fondamentaux de la campagne et puis dans quel état d'esprit je souhaitais débuter ce mandat municipal en saluant évidemment la présence alors de ce qu'on appelle ou de ce qu'on appellera l'opposition, mais avec le souhait effectivement de pouvoir associer ces élus au travail de la commune et puis plus généralement à l'élaboration des projets qu'on aura à conduire au cours des 6 ou 7 ans du mandat qui débute aujourd'hui. Les priorités pour ce début de mandat, c'est celles qu'on a défendues évidemment au cours de la campagne électorale, c'est-à-dire l'amélioration et le renforcement de la présence en termes de sécurité sur la commune. Je pense notamment à notre police municipale, mais je pense aussi aux équipements qui sont liés à l'exercice de cette compétence. Et puis, comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, je souhaite vraiment pouvoir lancer dans un délai très rapide les projets de construction de cette maison des associations qui fait vraiment aujourd'hui cruellement défaut à la commune de Païta.
10 adjoints au maire de Païta ont été élus. La première adjointe est Vaissua Lajikula. Pas de surprise non plus dans les autres communes de la province sud. Patrick Roblin a été réélu maire de Bouraille. Steven Scauda est le nouveau maire de La Foa où il succède à Florence Roland. Atio Teva Puyao occupe désormais le fauteuil de maire et débute son premier mandat. Régis Vendégo est le nouveau maire de l'île des Pins. Il a été élu avec 15 voix contre 4 pour Patrick Coité.
Plusieurs communes de la province nord aussi ont élu leur maire, notamment à Koné, chef-lieu du Nord.
Oui, où Mike Samadi va donc succéder à Thierry Wewetse qui s'était représenté avec une liste UCFLNKS.
Les électeurs ont suivi leur voix, n'ont pas écouté, été déroutés par le deuxième tour. Et tout s'est bien passé. Aujourd'hui, on est en place pour pouvoir proposer quelque chose pour Koné. On va déjà faire un état des lieux de la situation, une audite, faire le tour aussi des bâtiments, de tout, donc vraiment un bilan dans les premiers mois. Et bien sûr qu'on ouvrira la discussion et sans doute dans des commissions on se retrouvera pour pouvoir proposer des postes aux partis qui vont travailler avec nous. On est quand même sur une liste d'ouverture, on est quand même sur des discussions, on est quand même voisins, on est quand même tous plus ou moins famille hein, aujourd'hui dans cette commune. Je pense qu'aujourd'hui, fermer la porte à la discussion, c'est ne pas... ce n'est pas dans notre philosophie. Hein. On est 29 élus, on doit ouvrir nos oreilles et positionner pour l'intérêt de Koné.
Dans les autres communes de la province nord, Pascal Sawa a retrouvé son siège de maire de Wailou. Sans surprise non plus, Paul Néotine a été réélu maire de Point-d'Imier pour un 7e mandat consécutif. En revanche, un nouveau maire à Canala, Caril Béronon, a en effet été élu et succède à Gilbert Thuyénon. Autre nouveau maire élu hier, Yann Gastaldi, devenu maire de Koumac, mais aussi Marc Tidjin, élu maire de Poum. Alain Levent reste le maire de Kaalagomen. Océane Achoué est le nouveau maire de Ponérihouin. Franck Diopoué, celui de Kouaoua. Joseph Méa Dupauveux retrouve le siège de maire de Poya et à Ouégoua, Barnabé Pebouamen, élu hier, va entamer son 2e mandat consécutif. À Pointe-Bout, Yann Peraldi a été réélu maire.
Dans les îles, le nouveau conseil municipal de Marais sera désormais dirigé par Robert Kawidron, élu hier pour succéder à Marilyn Sinewami. Et à Ouvéa, Maurice Tilewa conserve aussi son siège de maire et entame son 3e mandat. 22 maires ont donc été élus hier et il restera 3 maires à élire. Le conseil municipal de Puebo se tiendra ce matin à 9h et celui de Bouloupari à 10h. À Nouméa enfin, c'est demain, dimanche à 16h, qu'aura lieu l'installation du nouveau conseil municipal et la réélection de Sonia Lagarde. C'est la présidente de la province sud et chef de file des loyalistes Sonia Baquès qui était hier midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle a dressé le bilan des élections municipales et elle a aussi été interrogée sur l'avenir de la réforme constitutionnelle. Une interview à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet. Elle sera aussi rediffusée demain soir dans son intégralité juste après notre édition de 17h45. Et ce matin, à partir de 11h, nous vous proposons la rediffusion du Club politique de Radio Rythme Bleu. Au sommaire, là aussi, l'analyse du résultat des élections municipales et les interrogations sur le rejet par la Commission des lois de l'Assemblée nationale du projet de loi constitutionnelle et sur ses conséquences pour la suite du processus. Les consultants du club ont aussi évoqué la disparition de Lionel Jospin, un club politique disponible également en audio sur le site de RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, la réponse à la question d'hier. 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS se disent inquiets pour la suite du processus de Bougival, du rejet par la Commission des lois de l'Assemblée nationale, du projet de loi constitutionnelle sur la Nouvelle-Calédonie. Ils sont 11% à dire que cela ne les inquiète pas. Merci de votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Dans le reste de l'actualité, toujours sur le territoire, la plainte déposée contre Philippe Blaise pour injure raciale a été jugée irrecevable par le tribunal correctionnel. Les propos incriminés datent d'octobre 2024, quand dans une interview sur RRB, le premier vice-président de la province sud avait déclaré que la CCAT est un mouvement de nazis à la peau noire. L'élu n'avait pas été mis en examen, mais il était cité à comparaître alors que 4 membres de la CCAT s'étaient constitués partie civile dans ce dossier. Dans son délibéré rendu hier, le tribunal a déclaré l'irrecevabilité des parties civiles. La réaction de Philippe Blaise.
Le problème, c'est que ces gens-là, quand on regarde ce qu'ils ont écrit depuis des années, ça n'a été que des attaques contre les Blancs, des propos racistes. Donc, on était face à une forme d'instrumentalisation de la justice pour judiciariser le débat politique. Et la justice n'a pas souhaité se faire instrumentaliser et elle a dit que les plaignants n'avaient pas démontré suffisamment qu'ils avaient un intérêt à agir et qu'ils étaient réellement représentants de la CCAT, qui, je le rappelle, est une organisation occulte, qui n'a aucune existence légale, qui n'a pas de statut, qui n'a pas de dirigeant désigné.
Philippe Blaise, qui a tenu à revenir sur le fond du dossier en regrettant une judiciarisation du débat politique.
Le tribunal n'a pas souhaité porter de jugement sur ce que j'ai dit. Moi, je considère que quand on prend l'intégralité de l'interview que j'ai fait à l'époque, en octobre 2024 sur RRB, mon propos il est très clair. Je dis, attention, la CCAT veut nous attirer dans un conflit ethnique. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Donc, pour tous les gens de bonne foi qui entendent l'intégralité de mon intervention, mon propos, il était profondément antiraciste. Il était justement pour dire, ne tombons pas dans le piège qui nous est tendu par ces gens-là. On a isolé quelques mots de ce que j'ai dit pour faire croire que j'avais de façon générale des propos racistes. Moi, je sais que ce n'est pas le cas. Tous ceux qui, de bonne foi, ont entendu mon intervention savent que ce n'est pas le cas. En dehors de la CCAT elle-même ou de gens qui se réclament de la CCAT, personne parmi mes amis mélanésiens, personne à la Ligue des droits de l'homme, personne n'a considéré que ce que j'avais dit était de nature à être des injures raciales ou incitant à la haine raciale. Donc il y avait beaucoup de mauvaise foi et d'insincérité dans la démarche des plaignants. Maintenant, pour moi, c'est une leçon. C'est-à-dire qu'on a été habitué depuis 84 à une certaine virulence dans les propos, notamment du côté indépendantiste. Il n'y a jamais eu d'instrumentalisation de la justice. On voit qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui a été formée avec LFI, qui judiciarise le débat politique et qui essaye d'importer en Calédonie ces méthodes-là. Donc, c'est une leçon pour nous. Ça prouve que désormais, il faut faire très attention à ce qu'on dit parce que ça sera utilisé par nos adversaires.
Et de cette affaire, l'élu tire également des leçons à titre personnel.
D'abord, c'est que je suis très humble par rapport à ce jugement. Je crois qu'il faut saluer le fait que la justice est restée sur le plan du droit et n'a pas porté de jugement sur le fond. Mais je sais que la prochaine fois, je dirai sans doute les mêmes idées sur la dénonciation de ceux qui ont été à l'origine des violences de mai 2024. Il faut dire ce qu'ils ont fait subir aux Calédoniens, le racisme anti-blanc, les destructions, les persécutions qui ont été organisées. Mais je le ferai avec des mots qui ne laisseront plus place à l'ambiguïté et à l'instrumentalisation par nos adversaires.
Philippe Blaise, dont la plainte pour injure raciale déposée à son encontre a été jugée irrecevable par le tribunal correctionnel. Enfin, cette information en bref, un incendie s'est déclenché hier sur l'un des convoyeurs de l'usine du Sud de Prony Resources. L'origine est pour l'instant inconnue, mais la brigade d'intervention d'urgence a rapidement pris les choses en main pour éteindre l'incendie. Toutefois, le convoyeur concerné étant situé près du port, une partie du personnel n'a pas pu embarquer dans le ferry et a été ramené sur Nouméa en bus. 7h passées de 15 minutes, première pause dans ce journal, avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde. À tout de suite.
Projet d'aménagement, d'embellissement ou de rénovation? Envie de redécorer votre intérieur ou de sublimer votre extérieur? Ne manquez pas le salon Habitat et Déco du 27 au 29 mars dans un tout nouveau décor à Coekara. Trouvez l'inspiration pour vos projets auprès de 100 professionnels et participez à notre jeu. Rendez-vous à Coekara pour le salon Habitat et Déco. Toutes les solutions pour un lieu de vie qui vous ressemble. Entrée gratuite.
Sunzeal, c'est le spécialiste du photovoltaïque en Nouvelle-Calédonie depuis 45 ans. Avec Sunzeal, faites des économies sur votre facture d'électricité. Venez nous rencontrer pour définir votre projet au salon Habitat Déco du 27 au 29 mars. Plus d'infos sur sunzeal.com.
Chérie, vérifions si tu peux fêter Pâques au centre commercial Hyper Upaïta.
Vas-y.
Samedi 4 avril de 15h à 17h, il sera possible de participer à...
des ateliers créatifs.
Et de 17h à 18h, ce sera...
la grande chasse aux œufs.
Et le lundi 6 avril, il y aura une course à l'œuf de...
10h à 11h.
Et en plus sur Facebook,
il y a un jeu de Pâques pour gagner des paniers garnis d'œufs en chocolat.
Et tout ça, c'est...
gratuit.
C'est trop fort. Rendez-vous le samedi 4 et le lundi 6 avril au centre commercial Hyper Upaïta pour fêter Pâques. Jeu gratuit sans obligation d'achat. Un événement en partenariat avec votre magasin King Jouet.
Entrepreneur, porteur de projet, vous souhaitez créer, développer, transmettre votre entreprise ou financer vos projets? Rendez-vous à la CCI pour la semaine de l'entrepreneuriat du 31 mars au 2 avril. 3 jours pour structurer vos projets et obtenir des conseils concrets, échanger avec des experts, inspirez-vous de témoignages, participez à des mini-conférences et repartez avec des solutions adaptées. Programme complet et inscription sur www.cci.nc.
RRB, première radio d'information.
Après un mois de guerre au Moyen-Orient et le détroit d'Hormuz neutralisé où transite normalement 20% du pétrole mondial, c'est maintenant le coup de pistolet à la pompe. Pêche, agriculture, transport, de nombreux secteurs sont impactés en France et le gouvernement tente de réagir face à la hausse des prix des carburants. Les ministres concernés étaient réunis à Bercy la nuit dernière pour nous. À l'issue de cette rencontre, le ministre de l'économie a fait des annonces. Jacques Serret pour Europe.
Oui, si Roland Lescure fait ce constat...
cette crise énergétique a des impacts très concrets pour nos concitoyens.
Pas question pour autant de sortir le carnet de chèques. L'ère du quoi qu'il en coûte est révolue. Le ministre de l'économie dispense les aides avec parcimonie.
Nous avons donc sur le plan national construit une réponse graduée, ciblée, sectorielle et limitée au mois d'avril.
70 millions d'euros pris dans les budgets des ministères et destinés uniquement aux transporteurs, aux pêcheurs et aux agriculteurs. Les petites entreprises du transport routier en difficulté pourront recevoir une aide de 20 centimes d'euros par litre de carburant. 20 centimes d'euros par litre de carburant également pour les pêcheurs, alors que le prix du gasoil maritime a augmenté de 80% en un mois. Enfin, pour les agriculteurs, suppression de la totalité du droit d'accise sur le gasoil non routier, le GNR, soit une baisse de 4 centimes par litre selon le gouvernement.
Pour protester contre cette hausse des prix du carburant, les syndicats de transporteurs routiers vont manifester leur mécontentement au travers d'actions régionales. Des opérations escargots sont attendues dès demain à Lyon et Clermont-Ferrand, mais aussi dans le reste de la métropole toute la semaine prochaine. Réunis la nuit dernière pour nous près de Paris, les chefs de la diplomatie du G7 appellent à un arrêt immédiat des attaques visant les populations et les infrastructures civiles en Iran. Dans une déclaration commune, les ministres allemands, japonais, italiens, canadiens, britanniques, américains et français demandent également le rétablissement de la liberté de circulation dans le détroit d'Hormuz face au risque d'asphyxie de l'économie mondiale. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Le G7 insiste sur l'urgence avec une priorité: rétablir durablement une navigation libre, gratuite et sûre dans le détroit d'Hormuz. Jean-Noël Barrot affirme que la France est prête à contribuer à la sécurisation de ce passage stratégique une fois l'intensité des combats réduite.
Il est hors de question de vivre dans un monde où les eaux internationales sont fermées à la navigation dans le cadre de conflits qui ne concernent pas les pays qui ont besoin que cette circulation puisse avoir lieu.
Paris et Londres travaillent à la création d'une coalition internationale destinée à accompagner cette reprise de la navigation via un système d'escorte. De son côté, le secrétaire d'État américain Marco Rubio martèle l'importance de maintenir la gratuité du passage. Il appelle à empêcher l'Iran d'instaurer un système de péage dans le détroit. Un enjeu crucial, Téhéran revendique sa souveraineté sur cette voie essentielle du commerce mondial d'hydrocarbures et envisage de faire payer les navires qui souhaitent l'emprunter.
Le chef de la diplomatie américaine qui annonce également que les objectifs des États-Unis seront atteints dans les deux prochaines semaines. Marco Rubio estime également que son armée peut finir le travail sans troupes au sol. Et ce contexte international a un effet inattendu. Il fait remonter la cote de confiance d'Emmanuel Macron. Selon un sondage Toluna Harris Interactive, elle atteint les 32% au mois de mars, soit une hausse de 7 points par rapport à la fin 2025. Cette progression est particulièrement visible chez les sympathisants LR et LFI. Revenons à l'actualité sur le territoire et voyons maintenant comment les Calédoniens pourront se divertir ce week-end. Les fans de culture trouveront leur compte à Nouméa et Païta, Mickaël Juneski.
La semaine de la langue française et de la francophonie se poursuit. L'Alliance Champlain propose sa traditionnelle dictée du Pacifique aujourd'hui. Elle aura lieu à partir de 13h30 dans la salle d'honneur de la mairie de Nouméa. Les précisions de Daniel Mérou, le président de l'Alliance Champlain.
C'est depuis 2003 qu'on est dans le circuit des dictées annuelles. Et si au tout début, on optait plutôt pour une dictée élitiste à la Bernard Pivot, c'est d'ailleurs lui-même qui avait concocté, qui avait préparé la première dictée que nous avions lancée. Mais au fil des années, donc, on s'est là aussi adapté au contexte local, à savoir de faire en sorte que la dictée soit ouverte à tous et à toutes, et surtout de permettre à tout un chacun de pouvoir essayer de se livrer à un exercice qui ne soit pas trop difficile, trop compliqué. Et donc, on avait pris la décision, et ça marche très bien, de choisir le texte de la dictée dans une œuvre locale, dans une œuvre d'un artiste ou d'une artiste locale, ou d'un auteur ou d'une autrice locale. Enfin, donc, c'est très, très variable, mais c'est toujours donc une dictée de Nouvelle-Calédonie.
Les inscriptions se font directement sur place. À Païta aussi, les férus de langue française pourront se challenger au doc socio-culturel à partir de 14h. Côté artistique, le musée maritime reçoit l'artiste Lise-Marie Arbulot pour une démonstration de la technique du pastel. Ce sera de 10h30 à 12h30. Autre rencontre musicale cette fois avec un récital de piano de Vincent Adrania au Conservatoire des Arts de la Nouvelle-Calédonie demain à 18h. Les places sont en vente sur itiquette.nc.
On va également parler environnement ce week-end. Le WWF fête les 20 ans de l'initiative Earth Hour dans les trois parcs de la province sud.
Pendant une heure, de 20h30 à 21h30, certains bâtiments publics vont éteindre leurs éclairages. Le but est d'alerter sur l'état de nos écosystèmes. Mais avant, plusieurs actions seront proposées au parc des Grandes Fougères, au parc de la Rivière Bleue ou bien au parc forestier. C'est Gaëlle Labigne, chargée de projet éducation à l'environnement au WWF, qui coordonne l'événement.
On aura des activités à faire en autonomie qui seront proposées par les bénévoles du WWF. On aura également des visites guidées dans les parcs qui sera fait soit par le personnel du parc, soit par des prestataires comme par exemple Marie-Paul Monet-Farah au parc des Grandes Fougères et Isabelle Joly de Calédonia Birds. Et on aura également d'autres prestataires comme le CIE de Nouvelle-Calédonie, l'Agence néo-calédonienne pour la biodiversité ou encore Animascience qui proposeront des animations au parc forestier. Et au parc de la Rivière Bleue, on aura également Aventure Pulsion qui proposera une chasse au trésor inédite avec un tarif avantageux. Et il y aura également à la clé la possibilité de pouvoir gagner différents cadeaux, notamment des entrées offertes dans les parcs, mais également une sortie éco-découverte à l'île verte à côté de Bouraille, avec le dîner et le logement inclus pour 4 personnes.
L'entrée dans les trois parcs est gratuite pour les moins de 18 ans. La ville de Nouméa propose également la diffusion du film Wall-E ce soir à 18h à la Maison de la Biodiversité.
On termine avec plusieurs salons organisés à Nouméa. Du côté de Coekara, le salon Habitat Déco de la Chambre de Métiers de l'Artisanat a débuté hier matin et se poursuit tout le week-end. Plus de 100 professionnels sont présents sur place, aujourd'hui de 9h à 17h30 et puis demain de 9h à 16h. Depuis hier matin, le salon Toyota se tient à la Maison des Artisans à l'entrée de Nouville. Véhicules neufs et d'occasion sont à découvrir encore aujourd'hui de 8h à 18h et demain de 8h30 à 16h. 7h24, seconde pause avant d'ouvrir notre page sport.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Passionné d'équitation ou simple curieux, rendez-vous le week-end du 28 et 29 mars dans les centres équestres de Nouvelle-Calédonie pour tout saponner. Au programme, animation, découverte et sensations pour petits et grands. Trouvez le centre équestre le plus proche et le programme des activités sur www.crunk.nc ou les réseaux sociaux. Venez vivre la magie du poney.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Le salon Toyota 2026, du 27 au 29 mars à la Maison des Artisans. Venez découvrir la gamme Toyota et le tout nouveau Toyota RAV4. Profitez d'avantages exceptionnels sur les véhicules neufs, mais aussi sur les véhicules d'occasion. Alors rendez-vous du 27 au 29 mars à la Maison des Artisans. Et le salon Toyota, c'est aussi chez Normand Torsconé.
Voir conditions en concession. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
À la une du sport, retour sur le football avec la sélection calédonienne qui s'est inclinée de peu hier contre la Jamaïque dans les play-offs qualificatifs à la Coupe du Monde, Michael Juneski.
Oui, défaite sur le plus petit des scores, 1-0 contre les Reggae Boys dans le cadre des barrages intercontinentaux. Rencontre serrée qui aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais qui n'a pas souri aux joueurs de Johan Sidaner. Angelo Fungini, qui disputait son premier match avec le maillot des Calédoniens, parle d'un résultat frustrant.
C'est la frustration. Je pense que c'est de la frustration parce qu'on sentait qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Voilà, on était bien dans notre match, on a réussi à faire des belles combinaisons, on a eu des opportunités. Après, c'est sûr qu'ils en ont eu aussi, mais voilà, on a montré que les Calédoniens ils pouvaient être bons dans des matchs comme ça, à la renommée mondiale. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a pu faire plaisir à tout le monde. Malgré la défaite, on a montré un beau visage et voilà, en espérant qu'on garde cette image et qu'on progresse dans les années à venir. C'était magnifique, franchement. Remercier au peuple mexicain. On l'a vu déjà avec l'accueil à l'hôtel. Ils nous ont mis dans les bonnes conditions et voilà, on peut juste dire merci à eux et voilà, ils nous ont poussé jusqu'au bout. Malheureusement, ça l'a pas fait, mais en tout cas, on va continuer pour aller plus loin.
La performance des Calédoniens, joueurs et staff, a été saluée par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Je cite, « Malgré une défaite sur la plus petite des marges, nos footballeurs ont livré une prestation de très haut niveau, marquée par leur engagement, leur discipline et leur détermination », peut-on lire dans ce communiqué publié hier soir. Les Jamaïcains affronteront la République démocratique du Congo pour une place au Mondial.
Voyons à présent le programme sportif sur le territoire ce week-end.
Allez, encore du football avec un match en retard de la première journée de Super League à 15h au stade Nouma Dele. L'AS Magenta sera opposé à l'AS Cougnier. De la boxe également ce samedi. Le comité de Nouvelle-Calédonie lance sa toute première compétition de l'année. Rendez-vous dès 11h à la salle Vincent Cafoua de Rivière-Salée. Du tennis de table avec la coupe d'ouverture dès 8h à la salle Serrandour au gymnase de Boulari. En VTT, le CS Bourail organise aujourd'hui le Grand Prix L'Aigle au départ de l'Auberge du Pêcheur. De l'haltérophilie avec dès 9h à l'Institut du Mont d'Or, la deuxième manche du championnat territorial. Et puis tout le week-end, la salle de Lanzata accueillera la coupe Arias Pacta de l'AS Magenta du badminton. 116 joueurs de 10 clubs différents sont attendus. À Sainte-Marie, l'Olympique Squash organise tout le week-end son Open Junior. Dimanche, rendez-vous à Prony pour le Raid des Facteurs, deuxième édition de ce trail organisé par Challenge Organisation. Et puis un mot des Calédoniens hors du territoire. 18 combattants participent ce week-end aux Essania de Taekwondo, c'est en Australie. Et en voile, Yann Rigal et Tom Pico participent à la Macao Match Cup 2026.
Le sport sur la scène nationale à présent, du rugby avec le Top 14.
Vibrez au rythme du rugby avec Société Générale, partenaire majeur du Top 14. À vos côtés sur le terrain comme dans la vie.
Les clubs de l'élite joueront dès ce soir la 20e journée du championnat de France.
Et ça commencera par un duel en haut du classement. Le Stade Toulousain, leader, accueillera Montpellier, son dauphin. Coup d'envoi de la rencontre à 00h30. En simultané, ensuite, à partir de 2h35, on suivra les rencontres Castres-Montauban, Lyon-Union-Bordeaux-Bègles, Pau Racing 92 et Perpignan-Toulon. À partir de 7h demain, Bayonne fera face à La Rochelle. Lundi matin, un choc concernant directement le top 6. Le Stade français sera opposé à Clermont.
On passe au tennis. tennis avec un Français en demi-finale des Masters 1000 de Miami.
Ouais, c'est la belle aventure d'Arthur Fils qui s'est hissé dans le dernier carré du tournoi américain. Il affronte aujourd'hui pour une place en finale le Tchèque Jiří Lehecka, classé 22e à l'ATP, là où le tricolore pointe au 31e rang. Un match compliqué hein, toutefois pour Arthur Fils. En ce moment même, il est mené 1-7-0. On est dans la deuxième manche. L'autre demi-finale verra un choc entre deux ténors du circuit mondial, la tête de série numéro 2, l'Italien Yannick Sinner, qui fera face à la tête de série numéro 3, l'Allemand Alexander Zverev. Chez les femmes, la finale opposera ce matin la Bélarusse Aryna Sabalenka à l'Américaine Coco Gauff.
Les sports mécaniques avec la Formule 1.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et le rendez-vous du week-end, c'est au Japon.
Oui, le circuit de Suzuka, théâtre de la troisième manche du championnat du monde. Alors que les Mercedes ont déjà gagné les deux premiers actes, George Russell en Australie, puis Kimi Antonelli en Chine, les pilotes qui attendent souvent impatiemment cette course sur les terres japonaises, à l'image du français Esteban Ocon.
On passe voilà, un très bon moment et pour moi c'est vraiment la piste de l'année voilà, que j'attends vraiment de rouler en F1 chaque année. Donc j'espère avoir un bon week-end cette année, prendre du plaisir et ramener des bons points à la maison.
Et lors des essais libres, si les Mercedes avaient dominé la première séance, c'est ensuite Oscar Piastri sur McLaren qui a signé le meilleur chrono devant les flèches d'argent. Les Ferrari de Leclerc et Hamilton sont pour le moment relégués aux 5e et 6e places. Les qualifications seront disputées cet après-midi à partir de 17h, heure de Nouméa. La course prévue demain. Le départ sera donné à 16h pour nous.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1, parrainée par Shell et Pacific. Shell, à nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2026. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Sport mécanique toujours avec également au menu ce week-end le Grand Prix des États-Unis de MotoGP.
Et pour le moment, c'est l'Espagnol Pedro Acosta qui s'est montré le plus rapide au guidon de sa KTM. Alors que le champion du monde en titre, Marc Marquez, a chuté durant les essais libres et ne s'est classé que quatrième. Fabio Di Gianantonio et Jorge Martin sont pour le moment classés deuxième et troisième. Côté français, Fabio Quartararo est bien loin sur Yamaha. Il n'a terminé qu'avec le 18e chrono. Pas mieux pour Juan Zarco qui s'est lui classé 20e. La course sprint est prévue demain matin pour nous à partir de 7h. Le Grand Prix lundi matin, départ à 7h également.
Merci Mickaël, on passe tout de suite à la météo.
Socapor Peinture vous présente la météo. Socapor Peinture, de grandes marques adaptées à tous vos besoins. Tolin, Soitil, Unicalo pour professionnels et particuliers et des milliers de teintes disponibles. Socapor Peinture, c'est à Ducos.
Et la météo de ce début de week-end, c'est avec vous Ismaël.
Et on ouvre ce bulletin, Léana, avec une vigilance jaune. Forte pluie orage aujourd'hui sur les communes de Belep et Koumac, ainsi que sur la côte est de Poum à Touau, pour des averses localement fortes et orageuses. Ce matin, le soleil sera voilé sur la côte ouest et sur les autres régions. Le ciel sera très nuageux à nuageux avec des averses qui circuleront. Elles seront localement fortes et orageuses. Sur la pointe nord et Belep, sur la côte ouest, le vent sera faible et soumis aux brises côtières. Ailleurs, l'alizé de secteur est soufflera autour de 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds au Loyauté. Et on termine avec les températures maximales qui seront élevées et supérieures aux valeurs de saison, notamment sur l'ouest, comprises entre 29 et 31 degrés, voire 32 à 33 degrés sur la côte ouest. Voilà pour la météo, Léana.
Eh ben, merci beaucoup, Ismaël. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 8h pour votre prochain point d'information.